actually the good one.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Pierre Bergougnoux.
Bonjour. On n'osait pas entrer. Enfin. Enchantée, nous voilà, maintenant, on est un peu en retard.
Bonjour. Il faut que vous avanciez, vous preniez à droite et vous serez à pied d'œuvre.
Ok, ok, madame.
J'aurais vécu à cagnarder, les pattes nouées comme des volubilis au pied de ma chaise, avec toujours aux mains un livre un peu trop difficile pour moi. C'est l'une des phrases prononcées par Pierre Bergougnoux en ce bel après-midi où il nous accueille chez lui, dans cette maison en haut d'une route, quelque part dans la vallée de Chevreuse. Dire de lui qu'il parle comme il l'écrit ne serait pas tout à fait juste, mais si on l'a lu, revient en mémoire lorsqu'on l'écoute le souvenir mélodique de ses textes. Pierre Bergougnoux est l'auteur de près de 80 livres, des romans, son vaste carnet de notes, journal tenu quotidiennement depuis 40 ans, mais aussi de nombreux essais sur d'autres auteurs, lui qui a longtemps été professeur de français. Parmi ceux-là, un bréviaire de littérature à l'usage des vivants, et c'est bien aux vivants que nous sommes qu'il fait partager, cet après-midi, quelques-uns de ses éclairs dans la nuit que sont pour lui Marx, Shakespeare, Faulkner. Mais pour commencer, après avoir bu une citronnade dans la cuisine, on se demande où sont les livres.
Les livres sont dans le bureau.
C'est ça.
Alors allons vers le bureau.
Allons vers le bureau. Je vais parler comme les jeunes. En fait, ça m'agace, vous n'imaginez pas. Vous avez sous les yeux un abrégé du programme de l'éducation nationale. Ça se ramène à ça. J'ai enseigné pendant 40 années. J'aurais pu vous avoir pour élève tous les trois. Là.
On aurait aimé.
Parfois, j'étais sévère. Donc, je répartis, comme vous le constatez, les livres par matière, par discipline. Donc, sur votre gauche, vous avez la géologie et la paléontologie. Ensuite, j'ai des goûts pervers. L'entomologie, parce que j'ai beaucoup persécuté les créatures à six pattes. Dans votre dos, l'histoire naturelle, naturellement, ils sont tous là, les grands prêtres, les grands professeurs. Après, je pense que ça doit être de la technologie et de la physique. Ça continue à droite. Puis, ce sont des livres de voyage. Et puis là, c'est la littérature contemporaine. Et en particulier mon vieil ami Jacques Reda qui vient de me jouer ce tour pendable de nous quitter sans que nous ayons pris congé.
Peut-être avant qu'on continue le parcours Pierre Bergougnoux, dire un mot des bibliothèques en elles-mêmes, qui sont très belles bibliothèques avec des
vitres surtout,
vitres
protéger les livres du soleil et de la poussière.
Et puis il y a un grand nombre d'objets parmi ces livres ou devant. Deux, oui. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un peu?
Avec l'accent naïf, chantonnant et prétentieux de Brive-la-Gaillarde, il y a certainement les livres, mais il n'y a pas que les livres. Il y a aussi les choses. Le monde rieur, des objets. Et je suis toujours porté à joindre le geste à la parole, ou la pratique à la théorie. Donc il y a des livres, par exemple, de géologie, mais il y a aussi des objets qui relèvent des temps... lointain, ou je ne sais pas, à côté, vous avez diverses roches et divers minéraux. Il y en a également là, devant vous, et un peu à la maison. Et puis, au nombre des goûts bizarres dont je suis victime, les arts premiers qui m'exaltent au suprême degré, je vais citer Flaubert, j'ai le bourrichon très monté lorsque je tombe en présence d'un fétiche en provenance de l'Afrique occidentale ou équatoriale. Donc les livres, c'est bien, mais les choses, c'est peut-être mieux, sachant que pour notre malheur, nous avons vocation, nous sommes condamnés à passer par les livres pour accéder aux choses.
Il y a là un masque absolument magnifique.
C'est un sénoufo du nord de la côte d'Ivoire, dont je vous livre. C'est un secret de nom, il s'appelle Kpeligé ou Kodelé.
Sur l'une de ces bibliothèques, je vois... quelques coléoptères, si je ne dis pas de bêtises.
C'est eux. Alors ça, c'est le fruit de mes chasses enfantines et adolescentes. Je pillais la boîte à couture de ma maman pour lui voler ses épingles et en percer certains insectes, pas tous, qui me disaient quelque chose par leur forme, par leur éclat, par leur couleur, que j'introduisais dans ces boîtes vitrées qui m'accompagnent depuis lors. Donc c'est effectivement des coléoptères. Ils appartiennent à la famille des carabes. Et ce sont, pour certains d'entre eux, je vous en montrerai, de vivants joyaux.
Et au sein de chaque région, comme ça, de ces bibliothèques que vous nous avez décrites, est-ce que le classement procède par ordre alphabétique, par ordre d'affinité avec chacun de ces livres? Comment vous avez procédé pour les ranger?
Il y a plusieurs ordres. Lorsque je le peux, c'est l'ordre alphabétique. Lorsque je ne peux pas, c'est l'ordre chronologique. Et enfin, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont appropriés, j'en trouve un troisième. Par exemple, les couvertures que vous voyez là, qui sont l'histoire naturelle du buffon, l'histoire des poissons, de la cépelle, l'ancien, le nouveau. Le monde est compliqué et nous oblige à toutes sortes de complications, mais bon.
Dictionnaire du comportement animal.
Oui.
Je pioche au hasard pour donner à entendre à nos auditeurs et nos auditrices une idée. Là, il y a une région des cartes.
Je n'avais plus la place en philosophie, donc comme il s'occupait des animaux, il disséquait des bêtes, j'ai dit après tout, puisque j'ai encore un petit trou là, je vais y glisser des cartes.
Ici, au-dessus de ces très beaux coquillages, je suis attirée par les choses, du coup.
J'espère.
Des livres de Pierre Ampe.
Oui, un auteur bien oublié.
Bibliothèque de géographie. Taine. Le voyage en Orient. Pierre Grimal. Churchill.
Et oui, il était en Égypte lorsque l'armée anglaise a affronté les mahdistes. Il a rapporté de cette équipe un excellent récit d'ailleurs de d'aventure, de voyage.
Je tourne la tête et je vois Mark Twain. Et derrière cette table...
Mais vous avez encore du voyage, en particulier la petite collection d'Aspero des années 80, qui a mis à notre disposition infinité de choses qu'on ne trouvait plus nulle part.
Par ici, Georges Duby.
Oui, c'est dit.
Là, c'est la section histoire. Oui. Histoire du Moyen-Âge. Chester Himes, Annie Ernaux.
Si vous m'êtes passé à la littérature contemporaine.
Ouais. Je pioche au hasard. Alors, on vous suit dans la pièce suivante. C'est une sorte de deuxième bureau, alors.
C'est le mot, c'est le deuxième bureau.
Ah, une collection magnifique de petites statuettes.
Ça fait 1000 ans que je leur cours après, alors ça finit par s'accumuler, oui.
Et alors, quels sont les territoires de ces bibliothèques-là? À nouveau, de très nombreuses bibliothèques avec des portes en verre sur chacun des murs de cette pièce, recouverte entièrement de livres, et pour l'un de ces murs, de masques africains. On est entré dans quelle région de vos lectures?
C'est toujours le programme de l'éducation nationale. Donc, tout de suite à gauche, la philosophie. On ne peut pas vivre sans philosophie. Juste après, les sciences sociales, au premier rang desquelles la sociologie, c'est le deuxième panneau. Le troisième, c'est l'ethnologie, l'anthropologie, pour parler comme les Anglais. En face, je pense, c'est la politique. En dessous, c'est la psychologie, la psychanalyse. Vous tombez ensuite sur les classiques de la littérature. Vous acheminez des premiers temps jusqu'au XXe siècle. Sur le mur de droite, ce sont principalement les littératures germaniques, anglo-saxonnes. Nous avons de brillants voisins en Angleterre, surtout, mais aussi en Allemagne. Sur votre droite, c'est l'économie. À droite, la philologie, la linguistique, les antiques traités de grammaire que je trouve délectables. J'aurais lu ma vie. Il n'y a pas d'autre mot, je m'avise à l'autre extrémité du temps qu'au lieu de courir un peu le monde, comme le font des tas de gens. J'aurais vécu à cagnarder, les pattes nouées comme des volubilis, au pied de ma chaise, avec, je vais citer Bachelard, toujours aux mains un livre un peu trop difficile pour moi. Voilà.
Est-ce que vous nous montrez peut-être un autre endroit de cette maison? Vous nous avez dit qu'il y a des livres partout.
Suivez-moi. Attention sur cette demi-marche.
Ici, un souterrain.
Ici, ce sont les livres de poche qui ont illuminé notre jeunesse. En 1953, vous n'étiez pas gros tous les trois, un consortium d'éditeurs lance ce qu'on appelle le livre de poche. Un volume simple coûtait 2 francs, ce qui était le prix d'une heure de travail non qualifiée. Un double, 3,40. Un triple, 6,70. Je m'y jetais donc dans des transes exquises. Parce que, pour la même somme, je pouvais avoir, par exemple, un double et un simple, mettons, Le bruit et la fureur de William Faulkner et Fermín Márquez de Valérie Larbeau. Mais, pour la même somme, je pouvais aussi me procurer le triple, Les démons de Dostoïevski. Vous imaginez l'écartèlement dans lequel on se trouvait pris, alors qu'on comptait nos petits sous et nous demandions, en nous dandinant devant les rayons de la librairie, sur quoi on allait jeter. Vous pouvez ouvrir.
J'ouvre. Ouvrez. Regardez un peu. Alors oui, c'est vraiment la collection. On a l'impression d'avoir face à nous l'entièreté de la collection du livre de poche à un certain...
Vous vous retrouvez transporté à 60 ans d'ici, au seuil des naissances aux années 60, que des gamins défortunés ont pu, malgré tout, se constituer une petite bibliothèque à eux.
Ouais, ça a été une date.
Ah, c'est une date, oui. Dans notre Égir, c'est une date.
Et alors, si je promène mes yeux, je vais d'André Gide à Gaston Leroux, en passant par Barrès.
Oui, il faut...
Le culte du mois.
Il faut dire l'ennemi.
Marcel Proust.
Oui, un bon auteur.
Bosco. Là, c'est moins organisé. Aragon.
Un petit peu moins.
Un petit peu moins.
Mais ce n'est pas le bazar non plus.
Non, absolument. En le disant, je constate que là, c'est la région poésie.
Oui.
Joyce.
Ah oui.
Laurie, James. Ah, James et Joyce.
Oui, il y a les Français, les étrangers, les Anglois.
D'organisation. Et Faulkner, voilà, il est là.
Oui, Faulkner, oui.
Ouais. Et alors à côté, là, c'est plus le livre de poche. Là, il y a quelques livres... Ils sont d'une toute autre nature.
Oui, tout à fait, oui.
La Nouvelle-Angleterre, le pays des cactus, oui, et des guides.
Ça aussi, on peut se procurer de beaux livres avec des illustrations en couleur pour des sommes relativement modiques.
Alors, on continue le parcours, on continue de vous suivre.
Là, il va falloir passer à l'étage si vous tenez encore debout, parce que là, c'est uniquement de la ferraille. On va passer à l'étage. Bien encore. Vous sentez capable de gravir cette ultime volée de marche?
On est capable. Et on est face à une impressionnante peau de zèbre.
Ben
oui.
Любви, от нежности и страсти.
on en arrive, Pierre Bergugno, au deuxième moment de cette rencontre, cet entretien, pour lequel vous avez bien voulu vous prêter à ce jeu. On demande à tous nos invités qui veulent bien nous ouvrir les portes de leur bibliothèque d'extraire de cette bibliothèque non seulement 5 livres, mais 5 passages de 5 livres qu'ils veulent bien partager avec nous, nous lire. Vous vous êtes prêté à ce jeu-là. Avant que vous nous disiez vos choix et que vous nous disiez ces textes, peut-être un petit mot sur l'exercice même de cette extraction qu'on vous a demandé. Est-ce que vous l'avez trouvé difficile, ludique, arbitraire ?
Aucun des trois, non. je garde le souvenir extrêmement précis de textes qui ont été des révélations. Et il continue de m'accompagner sur le chemin de la vie. Je sais où et quand j'ai lu tel ou tel livre qui était comme un éclair dans la nuit noire ou un coup de tonnerre au ciel bleu. Ma vie s'en est trouvée changée parce que grâce à ces pages, j'ai découvert que le monde était autre que je le supposais et le monde consiste au moins en partie dans l'idée que nous en faisons, puisque nous sommes là. Donc j'ai vécu longtemps sur une vision extraordinairement pauvre de ce qu'il y avait, de ce qui était, de ce que moi-même je pouvais être. Et je dois d'abord à l'exil, au fait d'être parti, d'avoir quitté mon petit pays, et ensuite à la rencontre qui était à peu près simultanée de grands livres, d'avoir dissipé, quand je n'espérais plus, quelques-unes des douloureuses énigmes dont les premiers âges de ma vie étaient encombrés. C'est ça, les livres. Ils nous arrachent en condition, à quelques degrés, à ce puits de ténèbres où nos âmes, du moins dans certaines régions, étaient immédiatement précipitées. Sachant, mais j'y reviendrai peut-être, que les adultes ne pouvaient plus nous être d'aucun secours parce qu'ils étaient les enfants du temps d'avant et que par suite de grands bouleversements de l'après-guerre, eh bien, nous accédions à des biens, à des vues qui leur étaient restées fermées. Et de tout cela témoigne la poignée de bouquins que je tiens entre mes mains.
Alors, je ne sais pas si c'était un hasard, mais quand vous m'avez envoyé la liste des 5 textes que vous aviez décidé de retenir pour cette émission, l'ordre dans lequel vous m'avez cité ces textes me semblait intéressant. Je ne sais pas si c'était un hasard. Peut-être on peut le garder, si vous en êtes d'accord. Le premier texte que vous me citiez, c'était un extrait du Manifeste du Parti communiste, oui, de Marx et Engels, oui, texte de février 1848, oui, pour
Marx,
sa première
Marx
édition.
A 29 ans, un mouflet de 29 ans dépose sur le bureau de l'International des Travailleurs 30 pages qui résument la totalité de ce qui a pu se passer depuis que l'aventure humaine a débuté, jusqu'à la fin fracassante en capitale romaine, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. C'est prodigieux. Et il fallait que ce soit quelqu'un de jeune, allemand, formé à la philosophie, plutôt d'origine juive, pour déposer entre nos mains ce grand programme qui enchaînait à la fois les considérations sur les âges révolus et l'avenir riant vers quoi il est monté nos regards.
Vous avez choisi un extrait de l'ouverture, le tout premier chapitre. Oui. Vous nous lisez ?
Je vais essayer d'une voix légèrement chevrotante. Alors ça donne ceci, chapitre 1, bourgeois et prolétaires. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Point. C'est magnifique. Tout s'éclaire. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons. En un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une échelle graduée de conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves, au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs, et de plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe, elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Et ça fait quoi ? 30 pages, format In4, toutes étincelantes, lumineuses, renversantes, en un mot commençant, révolutionnaires. Et ça remonte à 1848, donc bientôt, dans 20 ans, 2 siècles. Et à mes yeux, ça n'a rien perdu de sa pertinence. Il y a toujours des exploiteurs et des exploités, des oppresseurs et des opprimés.
À quel moment vous le rencontrez, ce texte-là de Marx ?
C'est très facile. On m'expédie en classe préparatoire au lycée de Limoges. Je franchis à mon insu ce qu'on appelle un seuil démographique. Aussi longtemps qu'on n'a pas atteint le chiffre, pas si respectable que cela, de 100 000 habitants, quantité, la division du travail ne permet pas de venir à bout d'un certain nombre de tâches. Elle suppose déjà une concentration de la population beaucoup plus importante. Et c'était le cas à Limoges. Il y avait une centaine de milliers d'habitants contre à peu près 40 000 dans ma sous-préfecture natale. Alors à Limoges se regroupaient les ressortissants des 3 départements du Limousin. Les pauvres Corréziens dont j'étais, des habitants de la Haute-Vienne qui étaient beaucoup plus délurés que nous, et les bandits de la Creuse. Des types légataires d'une longue tradition insurrectionnelle, révolutionnaire, qui s'étonnent lorsqu'ils me voient paraître de ma candeur villageoise et, pour mon édification, me remettent entre les mains des livres comme celui-ci et quelques autres dont je n'avais pas la moindre idée ni qu'ils existassent, ni qu'ils puissent, pardonnez-moi, quelque chose pour moi. J'ai lu ça avec passion. Ah, c'est donc ça qui se passe. L'histoire n'est pas du tout le ténébreux, le sanglant chaos qu'on imagine, mais quelque chose qui, en dernière instance, se ramène à la lutte des classes pour l'appropriation du produit du travail. J'en ai appris de belles à Limoges. Et naturellement, le fait de me rendre à Paris par la suite n'a fait que faire croître et embellir ce que j'avais recueilli auprès de nos voisins du Haut-Limousin et par la suite des Parisiens.
Ce qui m'a frappé à vous entendre le lire ce texte, c'est cette première phrase. Hein, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Vous parliez d'un texte étincelant.
Oui, c'est lumineux.
Oui, il y a le caractère lumineux de la connaissance qui est produite par ce texte, mais il y a aussi le caractère lumineux, si on peut dire, de la langue. C'est un très beau texte aussi, au sens du plaisir qu'on a à son chant.
Toute pensée neuve, audacieuse, renversante, révolutionnaire, chante. Les grands esprits, le style, c'est l'homme même. Un homme, une femme, qui ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient leur réflexion, trouvent spontanément, lorsqu'ils passent à l'expression, des termes qui semblent naturellement s'imposer au sujet, mais qui nous, qui n'avions pas encore formé ces pensées-là, nous exaltent, nous enchantent.
Le deuxième texte que vous avez choisi, Pierre Bergougnoux, c'est un extrait d'une pièce de Shakespeare. Ce n'est pas la pièce de Shakespeare la plus célèbre, non, ni la plus souvent jouée, mais le passage que vous avez choisi, lui, est très célèbre. Oui. C'est la tirade de Jacques à l'acte 2, scène 7. De Comme il vous plaira, pièce écrite probablement, ai-je lu, vers 1599. Vous avez choisi de nous la lire dans la traduction de Jean-Jacques Mailloux, je crois. Tirade qui commence par ce vers fameux. All the world's a stage, le monde entier est une scène. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de ce choix d'abord ou d'abord nous lire le texte et on en parle après ?
Ah, c'est plus fort que moi, il faut que je parle de Shakespeare. C'est le plus grand. Ils sont 4, 5, ils ont allumé des feux sur les collines. Et l'un d'entre eux était William Shakespeare, un bourgeois de Stratford-upon-Avon. Il a publié l'acte de naissance de l'homme moderne. J'entends par là l'individu conscient de soi, l'intériorité réfléchissante. Nous sommes tous les quatre des hommes modernes. Cela se fait sous contrainte étatique. L'État centralisé oblige chacun d'entre nous à bien faire réflexion à ce qu'il va dire ou faire, sous peine de s'exposer à des pénalités gothiques, mais précisément codifiées. On a à peu près l'équivalent en Espagne et en France, c'est-à-dire les trois grandes puissances, les plus grandes puissances de la Terre à cette époque. Notre petit compatriote Michel de Montaigne publie ses essais où l'on voit qu'il est lui-même la matière de son livre, elle se prend pour objet. Et en Espagne est édité ce qu'on pourrait appeler le manifeste du rationalisme européen, c'est Don Quichotte. Quiconque continue d'imaginer qu'il y a des enchanteurs, des fous, s'expose très vite à passer pour un fou fieffé. Voilà. Donc l'Europe occidentale qui, à ce moment-là, est devenue le sujet de l'histoire, enfante ces trois hommes. Mais si ça n'avait pas été eux, ça n'aurait été d'autres dotés des mêmes capacités de la même intelligence pénétrante, du même génie. Et l'anglais s'appelle William Shakespeare. Bon, on a tous présents à l'esprit les fulgurations que peuvent égrener Hamlet ou Macbeth dans leur course à l'abîme. Il n'y a pas un mot à reprendre dans ce qu'ils nous ont confié à presque 5 siècles de distance. Ça y est, des esprits méditatifs, amers, bien sûr. Bon, on fait le tour de la question de savoir quels nous sommes. Et y ont répandu en des termes aussi fulgurants que ceux que Marx a utilisés pour résumer en l'espace de quelques pages tout ce qui a pu se produire sur la Terre depuis la naissance des premières sociétés historiques vers le 4e millénaire au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Je parle très très mal anglais, mais il faudrait que nous ayons ici un lecteur anglophone. La langue anglaise sonne d'une manière merveilleuse. Lorsque c'est sous la plume de Shakespeare. Il arrive encore, par exemple, j'écoutais les débats à la Chambre des communes. Quelle merveille à nos oreilles françaises que cette langue anglaise qui, à l'origine, est un monstre, puisqu'elle est née de l'union contre nature entre le français que les Normands leur ont apporté et le fond germanique qui a été la base de la langue anglaise. Une vacherie bien française de Clémenceau. L'anglais, c'est du français mal prononcé. Voilà donc la tirade de Jacques. Le monde entier est une scène. Hommes et femmes sont des acteurs. Ils ont leurs sorties comme leurs entrées. Et chacun dans sa vie joue bien des rôles. Ces actes font 7 âges. D'abord, l'enfantelet qui vagit et vomit au bras de sa nourrice. Puis l'écolier grognon, avec son sac, traînant comme limace un regret vers l'école. Et puis c'est l'amoureux au soupir de forge, faisant une triste balade sur le sourcil de sa maîtresse. Puis un soldat plein d'étranges jurons, moustachu comme un léopard, jaloux de son honneur, vif, prompt à la querelle, cherchant cette chimère, la gloire, jusque dans la gueule du canon. Et puis le juge, belle pince arrondie, de bons chapons doublés, l'œil sévère et la barbe taillée en forme, plein de sages dictons et de banales sentences. Tel il joue son rôle. Le 6e âge fait passer au maigre Cassandre en pantoufles, les lunettes au nez, l'escarcelle au côté, ses chausses de jeune homme, ménagé, trop large d'un monde pour ses jambes ratatinées. Sa grosse voix virile retourne au soprano flûté de l'enfant et se fait sifflante. Dernière scène de toutes, finissant cette étrange histoire pleine d'aventures, c'est la seconde enfance et le simple oubli, sans dents, sans yeux, sans goût, sans nulle chose. Ceci vaut pour nous tous, une dimension universelle de Shakespeare qui assurera une sorte d'immortalité ou d'éternité jusqu'à la consommation des siècles. J'aurais bien aimé qu'il soit français, mais il y a des génies nationaux et le génie anglais diffère assez sensiblement du nôtre. Personne chez nous ne s'est porté à cette hauteur, jamais.
Comme il vous plaira, c'est une pièce dont l'intrigue est un peu étrange, qui a des allures de comédie pastorale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, que nous rappeler quelle est son intrigue, tout simplement, et quelle place occupe ce personnage de Jacques qui dit ce texte que vous venez de nous lire?
Alors, c'est là qu'on trouve ce dialogue final entre Rosalinde et... je perds les noms à mon âge. Pour combien de temps serai-je vôtre, mon Seigneur? Vous rappelez tous la réponse? Pour l'éternité et un jour. Forever and a day. J'aurais plutôt lu les grandes pièces, mais tout le monde les connaît. À quoi bon fatiguer les lecteurs ou les auditeurs avec les fulgurations de Macbeth courant à l'abîme? La vie est un pauvre acteur. Life but a poor play, qui s'agite et frétille un instant sur la scène, et puis qu'on n'entend plus. Out, out, brief candle. Éteins-toi à faible lumière. C'est fou que des choses de cette sorte aient pu être atteintes dès le début, dès la fin du XVIe siècle ou dès le début du XVIIe siècle. J'évoquais tout à l'heure Shakespeare et Cervantes, ils sont morts le même jour, sans avoir jamais soupçonné ni l'un ni l'autre qu'ils avaient une sorte de frère dans cet ordre, qui est l'ordre symbolique, l'expression. J'ai eu beau chercher, Montaigne est magnifique, mais il ne s'est pas porté à cette hauteur. Le vieux Bill, comme disent les Anglais, a atteint, et tout, ce qui est troublant, c'est qu'il a 30 ans quand il écrit Roméo et Juliette, 30 ans. Mais c'est déjà la sagesse d'un vieux. Quand il fait parler le vieux Capulet, qui a facilement une cinquantaine d'années, eh bien, on ne soupçonne pas une seconde que ce soit un type d'à peine 30 ans, comme Marx, 29 ans, qui est confié ses aperçus magnifiques, qui possède ce sens racine qu'il attribue au vieux Capulet.
Et vous pouvez les lire en anglais?
Oui. Ouais. Mais j'ai toujours la traduction en regard. J'ai entendu de la bouche d'authentiques britanniques que la langue de Shakespeare était difficile, alors que non, elle me semble si proche de l'anglais contemporain que je m'étonne qu'il la juge telle quand elle me semble couler en quelque sorte de sourire. Parfois, si je passe à cette édition bilingue, je passe à la page en regard pour voir un peu comment le traducteur s'y est pris. Mais bon, nous avons le privilège d'être tout proche de l'Angleterre. Il est très facile à ces pièces de passer la Manche et de venir nous enchanter. C'est un bonheur. Je vais me vanter, je connais à peu près par cœur la traduction. Je sais exactement ce qui va suivre. Mais chaque fois que j'entends une représentation en anglais, une sorte de fête de l'esprit qui se trouve des choses aussi belles sous la plume de quelqu'un qui nous a quittés, voilà. 1616, je crois. Oui. 400 ans.
Le troisième texte que vous avez choisi de nous lire est un texte d'un auteur sur qui vous avez beaucoup écrit aussi, dont on sait quand on vous a lu à quel point il est cher à votre cœur, c'est William Faulkner. C'est un extrait de L'Invaincu de Faulkner, qui est un texte qui a paru en 1938, si je ne dis pas de bêtises, que vous allez nous lire dans la traduction de Rimbaud et Worth, qui est la seule traduction en français qui existe jusqu'à ce jour. Peut-être faut dire en quelques mots la situation du passage que vous allez nous lire. Ce roman-là de Faulkner se passe dans le Mississippi, mais pendant la guerre de Sécession.
C'est ça,
oui. On est au lendemain de la reddition de Vicksburg et la rumeur se répand au sein de la famille dans laquelle on est que cette victoire pourrait être associée à la libération des esclaves.
C'est chez les Noirs que le bruit se répand. On va être libérés. Et les deux héros, qui ont 11 ans, un tout blanc, l'autre tout noir, ne comprennent pas ce que veut dire le mot libéré et pensent que ce va être des châtiments, des supplices. Et donc, ils se sentent l'obligation de résister aux envahisseurs yankees, ces salauds au ventre bleu, comme on dit dans le Mississippi. Et naturellement, comme leur père combat dans les rangs de l'armée des fédérés, n'est pas là. Et c'est à eux, qui sont âgés de 11 ans, qu'il incombe de protéger le domaine et les environs.
Eux, c'est Bayard Sartoris, qui est le narrateur de cette histoire. Et
Marengo, dit Ringo, son frère de lait noir, qui naturellement n'a aucune conscience de la signification du conflit, et entend bien joindre ses efforts à ceux des esclavagistes contre les Yankees qui viennent pourtant leur apporter la liberté. Oui.
Avant que vous nous lisiez le passage en question, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi, entre tous les textes de Faulkner, vous avez choisi de nous lire un extrait de ce roman-là, ou cet extrait-là dans ce roman-là.
Parce que le génie, il n'y a pas d'autre mot, de Faulkner, me semble s'exercer là à plein. C'est-à-dire, par exemple, que les deux héros sont âgés de 11 ans. Habituellement, le héros est entre 20 et 45 ou 50 ans. C'est un homme mûr, une femme faite. Ça se passe non pas dans les rues de quelque vaste métropole, mais dans un trou perdu du Mississippi. Dans les faits, ça s'appelait Oxford, mais dans le livre de Faulkner, c'est Jefferson. L'autre personnage, c'est la grand-mère, Granny. Et en face, mais on ne comprend qu'à l'extrême fin du passage, c'est le 21e de cavalerie, c'est-à-dire 2000 ou 3000 hommes vêtus de bleu sombre et qui prennent possession du pays. Et qui, contrairement à l'idée qu'on peut se faire de ce qui s'est passé là-bas, ne sont pas inhumains. Des gosses vont tuer un cheval en essayant de descendre le cavalier. Et le colonel du régiment Yankee comprend parfaitement que c'est des gosses et qu'on n'argumente pas contre le vent et la pluie. Enfin, une dernière chose. Ils sont deux, me semble-t-il, à dominer l'espace littéraire. Un grec du 9e siècle ou du 8e siècle, qui s'appelait Homère, qui a façonné la matrice du récit rationnel, et un tout jeune américain, sorti d'un endroit complètement perdu, qui va s'aviser très précisément en 1927 que tout ce qui a été écrit entre le grec et lui, je le cite, c'est pas ça. Alors, il n'a pas été jamais en mesure d'énoncer clairement l'opération intellectuelle prodigieuse que, du haut de ses 26-27 ans, il a réalisée. Mais en gros, elle se ramène à ceci. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Le narrateur homérique ne fait pas réflexion au fait qu'il pense à un événement, qu'il le décrit, mais qui n'y est pas impliqué. Et il oublie de prendre en compte le fait que lorsqu'on pense à quelque chose, c'est dans un temps étal, voire réversible. On a l'esprit tranquille, le cœur en paix, on ne souffre pas. On est épargné des sentiments violents, la fureur, la terreur, la douleur, etc., etc. Ce qui fait que la vision que la littérature classique nous a donné des événements, et si je puis m'exprimer de la sorte, plate, isotrope. Faulkner est qui dit, mais quand j'agis, quand je m'efforce de disputer ma vie, mes biens, mon honneur, à des types en face qui n'écoutent ni ne pardonnent, je vois tout autrement les choses que se les imagine celui qui est dans sa chambre ou son bureau ou à l'ombre d'un térébinthe. Un truc à quoi il ne prêtera pas attention, mais rempli d'univers. Qu'est-ce qu'il a à la main? C'est un pistolet ou... Et inversement, des choses qu'il tient pour quantité négligeable sont à mes yeux revêtues d'une importance capitale. En un mot commençant, Faulkner réintroduit la vie, le monde vécu, allons-y, où sert l'appeler effectivement éprouvé d'un récit. Ou si vous préférez, il abdique la royauté de papier du narrateur et rétrocède la conduite du récit aux acteurs. C'est ça la révolution faulknerienne. J'avais 17 ans, c'est toujours mes petits compatriotes de la Haute-Vienne ou de la Creuse, je ne me souviens plus, qui m'avaient confié le bruit et la fureur. Mon premier mouvement était de révolte. J'ai 17 ans, je suis scandalisé, mais on n'y comprend rien. Une petite voix glacée, qui était à moi aussi, se fait soudain entendre, t'es sûr que tu ne comprends rien? Tu n'as pas plutôt le sentiment que tu n'avais jusqu'ici rien compris à ce que les livres racontaient, parce qu'ils reflétaient de façon diffractée ce qui se passe dans la vie, dans la réalité, et que c'est maintenant seulement que tu peux accéder à cette conscience claire de ce qui, en principe, exclut à peu près toute espèce de conscience emportée qu'on ait par l'intelligence du corps, quelque chose de plus intelligent que la cervelle, et qui permet, dans l'urgence, dans le péril de faire face, de faire pièce à ce qui vient. Donc, deux garçonnets de 11 ans sont au domaine avec leur grand-mère et ont entendu les Noirs, puisque c'est une société esclavagiste, dire à mi-voix « on va être libérés ». Alors, c'est très simple, on est des petits garçons, donc on va décrocher un fusil qui se trouve accroché au manteau de la cheminée et on va tirer sur les envahisseurs. « Vite, dis-je, dépêche-toi, c'est Bayard. J'ai peur, dit Ringo. On entendit la voix de Granny. « C'est toi, Bayard ?» Nous tenions le fusil, chacun par un bout, comme une bûche. « Tu veux te libérer, dis-je. Veux-tu être libéré ?» Nous le transportâmes ainsi comme une bille de bois, un à chaque bout, en courant. Nous courûmes à travers le bosquet jusqu'à la route, et nous nous cachâmes derrière le chèvrefeuille, juste au moment où le cheval arrivait au tournant. Nous n'entendîmes rien de plus, peut-être parce que nous étions essoufflés, peut-être parce que nous ne nous attendions pas à entendre autre chose. Nous ne regardâmes pas une seconde fois non plus. Nous étions trop occupés, armés, fusils. Faulkner est là. Voilà. On fait un truc et le reste est scotomisé. Nous avions essayé auparavant une ou deux fois quand Granny n'était pas là. Tandis que Ringo le maintenait, le fusil, j'empoignais le canon à deux mains, je le redressais, puis me redressant moi-même, je refermais mes jambes dessus et me laissais glisser sur le chien jusqu'à ce que j'entendisse le déclic. C'était ça que nous étions en train de faire. Nous étions trop occupés pour regarder. Le fusil était déjà en position sur le dos de Ringo, tandis qu'il se baissait, les mains sur les genoux, en haletant. Fusille ce salaud-là. Fusille-le. Puis la mire fut ajustée, et au moment où je fermais les yeux, je vis l'homme et le cheval disparaître dans la fumée. Cela fit un bruit de tonnerre et autant de fumée qu'un feu de broussaille. J'entendis le cheval pousser un hennissement aigu, mais je ne vis rien d'autre. Ce fut Ringo qui dit d'un ton pleurant « Bon Dieu, Bayard, c'est toute l'armée !»
Deux derniers textes que vous avez choisis pour ce parcours Pierre Bergogneau sont de nature un peu différente des trois que vous nous avez lus. Le premier est extrait d'un livre dont je ne connaissais pas l'existence, qui est signé d'un certain Comte de Jean. Je vais vous laisser le présenter. J'étais à la fois surprise et ravie par ce texte et en même temps pas complètement surprise parce que on a vu tout à l'heure dans notre parcours de votre bibliothèque ces petits coléoptères exposés au-dessus de votre bibliothèque que vous avez capturé vous-même et qui vous a lu sait que vous êtes un entomologiste amateur que vous goûtez à la chasse aux papillons depuis l'enfance. Vous l'évoquez notamment dans un livre qui s'appelle Le Grand Sylvain. Et puis, j'ai aussi en mémoire la chasse aux coléoptères qu'on peut vous voir mener dans un très joli documentaire de Geoffrey Lachassagne qui s'appelle La Capture, dans lequel on vous voit un été sur le plateau de Mille Vaches aller à la chasse à ces insectes. Alors, dites-nous, de quoi est extrait ce texte de Comte de Jean et qui est ce Comte de Jean qui a vécu l'essentiel de sa vie au XIXe siècle?
Son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe, général d'Empire. Comme tous ces hauts dignitaires de l'Empire, une bravoure qui confinait à la folie. Et curieusement, chez un militaire, un goût immodéré pour l'entomologie. Il remettait un sou à chacun de ces grognards qui lui rapportait un insecte. Il s'est ruiné en petits sous et a constitué une collection magnifique avant que la défaite de Waterloo ne renvoie dans ses foyers. Il avait survécu malgré tout à tout et qu'il emploie le restant, la suite de son âge, à rédiger un spécies général des coléoptères. Alors, c'est un livre qui est extrêmement précieux pour les gens de ma sorte. Parce que les entomologistes sont des gens réputés pour l'extrême exactitude des descriptions qu'ils livrent de leur capture, compte tenu du fait que le bouquin doit dater de 1826. L'iconographie est très médiocre. Même des gravures sur acier réalisées avec le plus grand soin sont loin de donner une image précise de ce à quoi la moindre photographie nous permet de parvenir. J'ajoute, quand on prend un insecte, on dit où et quand. Lorsque j'aurai disparu et que ma collection sera léguée, rêvons au Muséum d'histoire naturelle, le premier soin de l'entomologiste de service sera de s'assurer que j'ai bien respecté l'ensemble du protocole, l'heure, l'endroit, piqué ici, sur l'élytre droit, et les deux pattes avant bien présentes pour qu'on sache immédiatement si on a affaire à un mâle ou une femelle. Enfin, je ne vais pas descendre dans ces détails parce qu'on y sera encore demain. Et deux gens donc décrit très, très méticuleusement tous les coléoptères en présence desquels il s'est trouvé, y compris celui qu'il repère alors qu'il va engager une bataille en Espagne et qui est là dans l'herbe pendant que les Espagnols lui tirent dessus. Il ne fait ni une ni deux, il s'arrête, descend le cheval, attrape l'insecte, il avait toujours des épingles dans son chapeau, le pique sur son chapeau et mène l'assaut. Un biscaïen, un morceau de mitraille, arrache le chapeau, mais par bonheur épargne l'insecte. Donc, des gens rentrent en France, écrivent son spécies, et alors, j'avais été frappé, enfant, par le fait qu'il existait un coléoptère de toute beauté, qui s'appelait Hispanicus, l'espagnol, alors qu'on ne le trouve pas en Espagne, et dont l'habitat était localisé à trois départements, à savoir l'Ardèche, le Tarn et l'Aveyron. Donc, je désespérais, c'est comme les masques africains, j'en aurais jamais. Je porterai jusqu'à mon dernier jour le deuil de cette créature merveilleuse, de cette hôte du pays des merveilles. Et puis j'ai fait le calcul suivant. Depuis deux siècles, on jette des ponts partout en travers des coupures du paysage. Vous n'imaginez pas la circulation nocturne sur les ponts. Toutes sortes de bêtes, des grosses, des petites, y compris des insectes. Donc je me suis dit, deux gens vivaient il y a presque 200 ans. On a jeté des ponts sur les rivières qui nous séparaient de l'Ardèche, de l'Aveyron et du Tarn. J'ai peut-être une chance de le trouver chez nous. J'ai mené des recherches assidues, puis je suis tombé sur Chrysotribax hispanicus. Je pense que la sensation persiste 50 ans après. Donc, des gens décrivent cet animal dans un langage extrêmement précis. Il ressemble beaucoup au Cyaneus, qui est une autre espèce, par la forme et la grandeur. La tête est en dessus d'un bleu un peu violet à sa partie postérieure et noire antérieurement. Vous imaginez le raffinement auquel il faut sacrifier si on veut être assuré lorsqu'on tombe sur l'Hispanicus qu'on n'a pas confondu avec le Cyaneus. Cette tête est assez fortement ponctuée. Elle a des rides irrégulières qui se confondent avec les points et deux enfoncements longitudinaux entre les antennes. Le dernier des palpes est fortement sécuriforme dans le mâle, un tout petit peu moins chez la femelle. J'avais été tout jeune, frappé du soin que ces gens qui ne sont pas des littérateurs, qui ne sont pas des romanciers, mettaient à décrire méticuleusement des créatures assez peu volumineuses, mais de telle sorte que n'importe quel profane, ce que j'étais et demeure, ne pouvait à aucun moment se tromper, parce que chacun des traits pertinents avait été saisi avec une si grande exactitude que les quelques doutes qu'on pouvait avoir se trouvaient levés les uns après les autres. C'est une grande leçon que celle qu'on peut retirer de l'usage que des savants, des naturalistes ont fait de la langue française.
À vous écouter, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un rapport dans... Oui, je trouve une forme de jubilation qui perce à décrire si précisément l'insecte cette activité qu'est l'écriture.
Oui. Pour désigner la trouvaille, la description d'un insecte, on parle d'invention. C'est précisé dans la biblio que donne le comte de Jean. C'est le grand Fabricius, qui était un entomologiste danois du XVIIIe siècle, qui est le premier à rencontrer et décrit. C'est exactement comme pour nous. Si vous voulez identifier un insecte, il lui faut un nom générique et un prénom. Alors, le nom générique, c'est Carabousse. C'est un carabe. Ensuite, c'est vous qui décidez du prénom. De même que lorsqu'on a un enfant, c'est l'état civil qui décide du nom patronymique ou matronymique qu'il portera. Et les insectes, c'est pareil. Et la gloire, le comble de la gloire, est de voir associer à ce nom et à ce prénom, entre parenthèses, les premières lettres du nom de l'alphabet.
Pierre Bergougnoux, je voudrais qu'on ait le temps, parce qu'hélas on arrive bientôt au terme de cette rencontre, d'évoquer le dernier texte que vous avez choisi, qui d'une certaine manière nous ramène vers vos terres d'enfance, les terres qui vous ont vu grandir. C'est un extrait du guide géologique de l'Aquitaine orientale, publié par Masson. Alors, ce sont ces guides géologiques, je ne sais pas si tous les auditeurs et les auditrices les connaissent, qui sont voilà, des guides de référence dans le domaine de la géologie, qui ont une belle couverture rouge, comme celui que vous tenez entre les mains, et qui sont un outil précieux de quiconque veut explorer la Terre géologiquement.
Oui. La particularité de mon département natal est d'enfermer dans sa superficie réduite la totalité du système géologique. C'est un tohu-bohu, un capharnaüm, un bric-à-brac invraisemblable. Et au nombre des choses dont je garde le souvenir très vif, celui d'être d'emblée très déconcerté par le changement à vue de décor. Naturellement, les adultes n'étaient pas qualifiés pour répondre aux questions obsédantes que je leur faisais. Ça me faisait penser à l'enfant d'éléphant de Rudyard Kipling. « Tu seras puni pour ton insatiable curiosité. » Alors, puisque les vivants, ou les proches, ou mes compatriotes, ne m'étaient d'aucun secours, je me suis tourné vers ceux qui font profession d'explorer la Terre et d'identifier les diverses roches dont elles se composent. Et dès qu'on quittait la ville, je voyais succéder des formations extrêmement dissemblables, dont les unes, par exemple certains calcaires clairs, avec une végétation toute à eux. J'éprouvais une sorte de bonheur, alors que d'autres endroits me renfrognaient énormément, et de surcroît, la sensation persistait longtemps. Donc le moment venu, j'ai découvert qu'il existait des gens, on appelle ça des géologues, qui faisaient profession d'expliquer le sol qui nous porte, que nous foulons, et que si on se tournait vers eux, on obtiendrait la réponse aux questions qu'on se posait. Donc c'est à la page 43 du guide géologique consacré à l'Aquitaine orientale que j'ai trouvé mon bonheur, à savoir au carrefour des grandes routes et voies ferrées de Paris à Toulouse et de Lyon à Bordeaux. Brive est située sur la bordure du massif central, devant le bassin aquitain, dans la vallée de la Corrèze. Au débouché des Gneiss, cette rivière a déblayé des grès tendres du Permien, qui masquent la plus grande partie d'un bassin houillé, anciennement exploité, et qui sont dominés par des hauteurs de grès généralement plus dures du Trias et de l'Étangien basal. C'est pas la peine que je continue, tout est dit. Naturellement, ils usent de langage abscon, très spécialisé. Mais une fois qu'on est sur place, on voit très nettement à quoi correspond le grès dit étangien basal et en quoi il peut différer, par exemple, des gneiss du permo-carbonifère. Et c'était chaque fois un bonheur de savoir à quoi j'avais affaire, quand et sous quelles conditions telle roche avait fini par émerger à la surface de la Terre, sachant que tous les 10 ou 15 kilomètres, un dieu folâtre ou des géants moqueurs avaient complètement bouleversé ce à quoi on commençait à se faire et substitué toute autre chose aux premières choses qu'on avait découvertes. Donc j'ai regardé comme un don du ciel l'existence de ces guides géologiques régionaux qui m'ont dit pourquoi les choses étaient ce que je les voyais et dans quelles circonstances, à quel moment, 100, 300, 500 millions d'années de distance, elles étaient apparues et continuaient de nous supporter. Sans naturellement rien nous dire.
Il faut peut-être préciser à ceux qui nous écoutent que Brive-la-Gaillarde est la ville qui vous a vu naître.
Ah oui, j'oubliais.
Je voudrais dire aussi que vous avez publié un récit il y a quelques années qui s'appelle Géologie.
Oui, c'est exact.
Au pluriel.
Oui.
Je voudrais en lire un tout petit extrait, si vous voulez bien. Si connaître une chose consiste à en relever les contours, on voit quel bénéfice associé s'ensuit. Pour vaste et ramifiée qu'elle soit, elle finit forcément quelque part. Où cesse son empire, on peut commencer. J'ai pensé que si je comprenais pourquoi le séjour du pays natal me tirait vers les heures mortes, la tristesse, j'échapperais dans une certaine mesure à leur empire, parce que je ne serais plus le même. Je ne subirais plus, par faute de distinguer. Je serais celui qui, pour comprendre, s'est mis à part, dépris. Et les choses ne l'affecteraient plus comme elles l'avaient fait, aussi longtemps qu'il faisait corps avec.
Oui, oui, oui. Cette jolie formule de Edmund Husserl, la conscience, c'est le prodige des prodiges. Et c'est la vérité. On sait à quoi on a affaire. Rien n'est plus pareil. On sait où ça commence, on sait où ça finit. Et ce qui est terrible, ou simplement fatigant, c'est d'avoir besoin de passer par le détour des livres pour s'en revenir, toujours selon la formule de Husserl, aux choses mêmes. Sauf que ce détour n'a pas été en vain, puisqu'elles ont changé de visage par le fait que c'est en claire connaissance de cause que nous les envisageons et qu'ils ont été obligés de desserrer les dents et de nous dire tout simplement leur nom. Vous êtes qui et vous nous voulez quoi? Oui, oui, les livres.
Très grand merci à Pierre Bergougnou et à toute l'équipe du Book Club, Léa Weissgruss, Oriane Mignot, Jeanne Aléos, Cyril Marchand, Marianne Chassor et Alexandre Alaï-Begovic. À la prise de son, Benjamin Troncin, au mixage, Stéphane Touvenin et à la réalisation, June Loper. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres évoqués dans l'émission sur le site internet de France Culture, où vous pouvez aussi écouter les autres épisodes de ces visites de bibliothèque, également disponibles sur l'application Radio France.